Réplique « Avoir été trotskiste » avec Michel Brouet et Edoui Plenel. Rester fidèle à ce qu'on fut, tout reprendre par le début, chacune des deux tâches est immense, écrivait en 1960 Maurice Merleau-Ponty. Dans « Secret de jeunesse », son dernier livre, Edoui Plenel s'efforce de répondre à cette double injonction. Et il est comme aiguillonné dans sa tentative par l'attitude de Lionel Jospin, qui, quant à lui, n'est sorti de la dénégation de son passé politique que par un aveu furtif et embarrassé. Le Premier ministre et le directeur de la rédaction du journal Le Monde ont ceci de commun, qu'ils ont été l'un et l'autre trotskistes, et ceci de différent, qu'Edoui Plenel appartenait à la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, et Lionel Jospin à l'OCI, Organisation communiste internationaliste, où il fut le mentor, c'est l'un des secrets révélés par Secret de jeunesse, du mathématicien Michel Brouet. Avant d'en venir à des questions d'intérêt plus immédiatement général sur la fidélité, la fierté, le remords, la révolution et Léon Trotsky, je voudrais, Edoui Plenel et Michel Brouet, que vous nous disiez ce qu'il en était et ce qui reste de la petite différence qui vous séparait. Michel Brouet.
Peut-être avant de répondre à cette question qui pourrait sous-tendre l'ensemble de l'émission, non pas que nous souhaitions l'un et l'autre polémiquer, mais que ça pose l'ensemble des problèmes politiques auxquels nous avons été confrontés et, de manière générale, les problèmes qui sont soulevés par Edoui dans son livre. Je voudrais tout de suite répondre au scoop que vous avez évoqué d'emblée. Lionel Jospin, dites-vous, a été mon mentor. Alors... Et c'était un secret révélé. Bon, c'est pas un bien grand secret. Beaucoup de gens...
Pour moi, c'en était un. D'accord. Mais peut-être...
Pas un bien grand secret, d'une part. Et d'autre part, je n'aime pas le terme mentor. Je peux vous dire, comme ça on se débarrassera tout de suite de ce problème-là, dans quelles conditions ça s'est passé. Ça s'est passé, si mes souvenirs sont bons, à l'automne 1970. J'étais un compagnon de route, disons, des trotskistes de l'OCI, dont par ailleurs je n'aimais pas beaucoup d'aspects. D'ailleurs, souligné dans le livre d'Edoui, les tics de langage, les tics gestuels, parfois la violence, l'aspect sectaire, enfin bref. Mais j'étais tout à fait tenté par leur rigueur doctrinale, la rigueur de leur pensée. Et finalement, ce que je pensais être, et qui était, en mon sens largement, l'adéquation entre leurs analyses et la réalité. J'étais considéré comme un emmerdeur, parce que j'étais à peu près d'accord, mais je ne voulais pas rentrer.
Et vous étiez, faut-il l'ajouter,
j'étais le fils de Pierre Brouet,
qui a écrit la biographie, oui, qui fait encore autorité de Trotsky.
Qui était aussi un des dirigeants, un dirigeant moindre, mais enfin qui occupait...
Et dit Plenel, Pierre Brouet, justement, ne voulait ni vous recruter, ni vous former. C'était un point d'honneur à ne pas vous endoctriner.
C'est exact. Je reviendrai d'ailleurs sur l'influence ou la non-influence de mon père, s'il le faut. Et le responsable du secteur où je me trouvais, en 70, est venu me trouver un jour, il m'a dit « Écoute, maintenant, tu es docteur de troisième cycle, tu vas moins nous casser les pieds avec tes maths, mais tu continues à nous casser les pieds avec la politique. Et si tu veux, nous avons trouvé quelqu'un qui aura peut-être le poids suffisant pour répondre à tes doutes, à tes questions, à tes interrogations. Et veux-tu donc accepter de faire ce que nous appelions un GER, ça voulait dire groupe d'études révolutionnaires, avec quelqu'un dont je te garantis que tu ne regretteras pas. » Bon. Ça s'est passé ainsi. Ça veut dire que nous sommes réunis une fois par semaine environ dans mon petit appartement de la rue des Fossés-Saint-Jacques. Mais je n'ai pas eu un mentor. J'ai eu...
C'était pas un pédagogue, un initiateur?
Mais non, pas... c'était pas ça.
C'était quoi alors?
On se faisait des exposés les uns aux autres, on discutait, on soulevait les questions, on soulevait les doutes. J'allais dire on s'engueulait, mais en fait non, on ne sait jamais... J'ai trouvé, alors je suis désolé de faire ça, de dire ce que je vais dire à la veille d'une campagne électorale, mais enfin c'est la vérité, et j'ai à faire attention de dire la vérité. J'ai trouvé quelqu'un qui était particulièrement ouvert, un bon vivant. C'était pas l'austère qui se marrait, mais c'était un type qui se marrait tout court. Hein. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était particulièrement attentif aux doutes, aux questions, et qui, la plupart du temps, je dois le dire, ne répondait jamais par des dogmes ou par des choses toutes faites, mais qui répondait à des questions par des questions, et qui me disait qu'au bout du compte, si vous voulez, ce gars-là que j'ai peine à appeler Jospin, parce que je ne l'appelais pas Jospin, me répondait...
Vous l'appelez comment?
Je ne l'appelais pas. Il était vrai qu'il s'appelait, il m'a dit qu'il s'appelait Michel, point.
Mais vous l'appeliez pas?
Non, je lui disais bonjour, salut, au revoir, ah, oui, un coup, mais je ne l'appelais pas.
Ah oui.
Bon, ce gars-là répondait à mes questions par des questions, et en particulier me disait que j'avais raison d'être aussi rigoureux, de poser les questions que je posais sur la plus-value, sur la révolution, sur la morale, sur le terrorisme, mais qui pouvait m'assurer, lui, qui fréquentait des cercles qui n'étaient pas, en général, sur ce genre de questionnement, ni dans ce genre de position, que dans ces cercles-là, les questions étaient moins rigoureuses, moins balancées, moins honnêtement posées, et que si ça pouvait me rassurer, je n'aurais pas de réponse toute faite à mes questions, mais que on les prenait sérieusement ici. Et je dois dire que je ne serais jamais rentré dans cette organisation si je n'avais pas rencontré ce gars-là, son ouverture d'esprit.
Ça n'a pas été votre mentor, mais ça a été votre passeur.
C'était mon passeur, oui.
Ça a été votre passeur. Et le compagnonnage a duré longtemps ?
Je voulais dire,
ces réunions.
Je pense que ça a duré 2-3 mois. Je ne me souviens plus. Enfin, je ne savais pas que ce type-là deviendrait un jour Premier ministre. D'ailleurs, l'aurais-je su, que ça n'aurait pas changé mon avis.
Est-ce que vous avez su qu'il avait été, qu'il est rentré au PS pour faire, comme on dit, de l'entrisme? Est-ce que ça, vous l'avez su?
Oui, je l'ai su assez rapidement parce que j'ai constaté que, contrairement à ce qu'il se passait dès le début, nous étions devenus très proches, je dois le dire. Eh bien, tout d'un coup, j'ai pas eu de ses nouvelles. Donc, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et alors, voilà, quand je l'ai vu, je l'ai vu très rapidement à la télévision. Je l'ai vu très rapidement à la télévision dans un congrès socialiste.
Et vous le viviez comme quelqu'un qui menait un double jeu? Comment l'avez-vous perçu lorsque, justement,
là, on
a commencé à faire cette carrière? Je souhaitais que vous m'expliquiez d'abord ce que c'est que l'OCI, mais le vif du sujet, c'est vous qui êtes entré. Donc, on commence par Jospin et on arrivera à l'OCI par Jospin. Parce que ça, c'est peut-être une des caractéristiques de l'OCI, que cet entrisme-là,
Je ne sais pas justement si c'est une caractéristique de l'OCI que cet entrisme. Ce qui serait plutôt caractéristique de l'OCI, c'est le fait qu'on pouvait, dans les années 70 à 80 et quelques, 81, 82 disons, être, au fond, comme je me suis senti moi, toujours, on pourra revenir parallèlement au mobile d'Edouis sur ce qui m'a fait, moi, devenir trotskiste, outre la séduction de Lionel Jospin. On pouvait être à l'OCI, et je pense que j'étais ainsi, en étant un social-démocrate, un socialiste de gauche. Un socialiste de gauche anti-stalinien, un socialiste de gauche anticolonialiste, mais un socialiste de gauche, pas un bolchevique de choc. Je n'étais pas ça.
Jospin non plus, donc il n'y avait pas d'hypocrisie.
Je n'en sais rien, Non, mais je n'en sais rien. Je ne parlerai pas pour Jospin. Peut-être que Jospin était un bolcheux de choc, après tout.
Mais pas vous.
Mais en tout cas, le fait de le voir au Parti Socialiste ne me choquait pas politiquement outre mesure.
Alors, un dernier mot avant de passer la parole à Edouis Plenel. Un dernier mot quand même sur l'OCI. C'est quoi cette organisation s'est créée quand? À quelle époque, simplement, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il y a derrière ce sigle, l'Organisation communiste internationaliste.
C'est ce qui reste de multiples scissions de la quatrième internationale. Et donc, de même que la LCR, c'est aussi ce qui reste, aussi ce qui est produit de plusieurs scissions. Et donc, remontons à 38, si vous voulez, mais on peut remonter avant à l'opposition de gauche.
Il y a eu un acte fondateur, quand même, de l'OCI comme tel?
Oui, mais peu importe. Si vous cherchez à me faire dire quand l'OCI s'est appelé OCI, par exemple, réponse est claire, je n'en sais rien.
Ah bon?
Le problème n'est pas là, et ce n'est pas la question que je me pose. L'OCI s'est appelé OCI, s'est appelé ensuite PCI, peut aujourd'hui s'appeler PT, peu importe. Ce qui compte, c'est son...
Donc vous feriez remonter son existence autour de 1938, c'est ça, si je vous comprends bien?
Avant, je pense que le trotskisme plonge ses racines et dans le bolchevisme et dans l'opposition de gauche... Et ensuite...
Bien, alors je me tourne maintenant vers Edouis Plenel pour avoir peut-être aussi un peu plus d'éclairage. Cette petite différence entre la LCR et l'OCI, c'était quoi substantiellement? C'était une rivalité mimétique ou il y avait autre chose? Entre des héritiers du vieux, comme on dit et comme vous aimez dire encore dans votre livre, Edouis Plenel.
Oui, moi, comment dire? Petite différence. Il y a eu un moment où la LCR, qui est donc le courant qu'incarne, je ne sais pas, Alain Krivine, Olivier Besancenot, pour le postier, là, pour faire court, a failli fusionner. Nous aurions pu nous retrouver, Michel et moi, dans la même organisation, c'était en 79, avec l'OCI. Et à l'époque, la formulation, c'était de dire il y a un mouvement trotskiste, le mouvement trotskiste au singulier. Bon, posons tout de suite que ce que j'ai essayé de dire, ce sur quoi j'ai voulu témoigner, c'est de dire il y a des trotskismes, bon, il y a des identités différentes. Alors, on y reviendra plus précisément parce que je pense que Michel a beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à la façon dont moi je vois de manière partiale et partielle de l'extérieur. Quand on ne connaît pas, je n'ai pas fait d'enquête, je donne comme un témoignage ce qui était une organisation que nous voyons, nous, en effet, comme Michel l'a dit, d'une certaine manière, un flanc gauche de la social-démocratie, mais dont l'apparence était justement très bolchévique, très dure à nos yeux. Moi, je témoigne de moments de dureté, de violence, de fermeture, que nous voyons, bon, je le dis, comme quelque chose de très sectaire. Bon. Alors j'essaye d'en rendre compte dans un itinéraire qui montre peut-être des racines de cela liées à la façon dont la Ligue communiste est plus le produit d'une sorte de rencontre entre un courant minoritaire du trotskisme et la révolution coloniale, le tiers-mondisme, l'attrait pour l'Amérique latine, pour Cuba, et mai 68, et le mouvement de mai 68. Il ne faut pas oublier que la LCR est née de la rencontre entre cette petite organisation, puisque l'OCI était le courant majoritaire, et ce qui s'appelait la JCR, qui était en fait un mélange entre des gens qui étaient, par exemple, au mouvement du 22 mars à Nanterre, donc qui étaient un peu libertaires. J'ai vécu, moi, dans une organisation où je sentais quelque chose qui était libertaire. Mais ce qui m'importe plutôt, que je voudrais dire d'emblée, par rapport à ce qu'a voulu poser tout de suite Michel, vous avez, votre question était à la fois la petite différence, qu'est-ce que c'était, mais qu'est-ce qu'il en reste. Oui. Et c'est surtout de cela dont je voudrais parler en vous remerciant de cette... d'avoir fait que ce dialogue se passe avec Michel. Moi, quand j'ai fait ce livre, je voulais l'appeler « Notre histoire » au départ, et puis on s'est aperçu que ce titre est très pris. Et le « Notre histoire » voulait dire, c'est pas mon histoire, c'était un autre. Et ce « Notre », c'était pas non plus notre histoire à tous ceux qui auraient été dans cette unique organisation qui existe toujours, la LCR. C'était l'idée, je veux raconter une histoire pour que d'autres la partagent et que d'autres viennent aussi poser leur histoire. Qu'ils sortent de ce que j'ai appelé à un moment, j'ai dit, il y a une sorte de chagrin post-lambertiste. Il y a une sorte de tristesse. Et au fond, il y a eu des engagements avec leur sincérité. Il faut savoir que Michel Brouet a incarné pour notre génération l'engagement sur les dissidents en Union soviétique, dans les pays de l'Est. C'est lui Pliouch, c'est lui tous les meetings et toutes les pétitions de mathématiciens de par le monde dans les années 70. Et c'est un engagement que nous partagions. Il n'y avait pas de désaccord. Et donc, j'ai voulu faire cela. Et j'ai eu une surprise pour moi après la parution du livre. Je connaissais très peu et de lambertistes et d'anciens lambertistes.
Et pourquoi on dit lambertiste tout le temps? Tout d'un coup, on dit OCI et puis on dit lambertiste.
Parce que c'est...
Excuse d'être un peu naïf, j'ai traversé tout ça aussi, mais un peu plus loin encore que vous.
Le leader, l'homme qui incarne cette organisation, qui a passé 80 ans maintenant, s'appelle Pierre Lambert. Mais juste, ce que je veux dire, qui est pour moi important, c'est que du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu des témoignages, et c'est comme ça que nous nous sommes connus, Michel Brouet et moi, il y a donc de ça quelques mois, après la parution du livre, grâce à ce livre, de gens, je pourrais citer aussi Benjamin Stora, que je connaissais un peu comme historien, ou Laurent Mauduit, qui est rédacteur en chef au Monde, des gens qui ont des divergences avec mon livre, mais qui se sont reconnus dans ce livre. Et donc, vous me demanderiez quelle est la petite différence et ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai qu'une réponse sincère. C'est une fraternité. Ah, donc c'est pas une différence, c'est une fraternité. Pour moi, Michel, la première fois où nous nous sommes vus, et c'est assez contradictoire, allez-vous me dire par rapport au livre, comme des frères.
Bien, alors c'est intéressant que vous disiez cela. Je vais quand même essayer d'insister un peu sur la différence passée et peut-être les leçons que nous devons en tirer pour aujourd'hui. Par-delà, en effet, la petite différence, il y avait un problème, et vous y avez fait référence, une autre façon de penser et de vivre la guerre d'Algérie. Et vous dites, Edoui Plenel, dans votre livre, que Lionel Jospin a eu du mal à assumer devant l'opinion une hérédité anticolonialiste forte. Et au fond, votre livre est consacré aussi au malaise, aux difficultés, aux chagrins jospiniens. Et vous dites, ça tient à l'eurocentrisme foncier de l'OCI, clairement écrit dans les années 60, la lutte des prolétariats des pays économiquement arriérés est sans espoir en dehors de la construction de partis communistes dans les pays économiquement développés, alors que de votre côté, vous souteniez le droit à l'indépendance d'un peuple colonisé, et vous le souteniez, dites-vous, et vous êtes fier de ce soutien, sans condition, ce qui vous permet au passage, de rendre hommage aujourd'hui, et nous reviendrons sur tout ça, à Francis Janson, pardon, qui animait les réseaux de soutien au FLN, les porteurs de valises, comme on disait. Alors, je voudrais que nous nous arrêtions une seconde à cette divergence-là, Michel Brouet.
Oui, peut-être levons une petite ambiguïté dans ce que vous avez dit. La question n'était pas du soutien ou du non-soutien à la lutte anticoloniale de l'Algérie. Ça n'est pas ce que dit Edoui Plenel dans son livre, d'ailleurs. Edoui Plenel, dans son livre, met en évidence l'opposition entre la LCR soutenant le FLN...
Oui, c'est ça. Et vous qui souteniez plutôt le MNA.
Enfin, vous, je n'y étais pas encore, j'étais trop petit à l'époque. Mais Lambert, puisque Lambert il y a,
ben oui,
soutenant le MNA.
C'est curieux quand même. Oui, cela dit, avec Trotsky, ça va bien, mais c'est assez frappant quand même, ces groupes révolutionnaires qui se veulent, si vous voulez, partisans d'une démocratie radicale et qui tournent autour, enfin qui sont nommés d'après une personne et une personne que personne ne voit, si vous voulez, dont l'existence est très mystérieuse. Il y a quelque chose une opacité liée à une apologie de la démocratie radicale qui peut quand même penser.
Deux points avant de revenir sur l'Algérie. Moi, personnellement, je ne me suis jamais considéré comme lambertiste, je ne me suis jamais appelé lambertiste et je déteste me qualifier de lambertiste. Et de deux, Lambert, après tout, on l'a vu, il a fait la campagne de 88, il était à la télévision. Donc, bon, si on veut le connaître. Maintenant, on peut ne pas avoir envie de le connaître, c'est une autre paire de manches, mais il existe et il s'est montré.
Bon.
Alors, revenons à l'Algérie, donc. Je suis désolé, mais il faut faire un tout petit peu d'histoire et de faits. Hein. La révolte algérienne a commencé en novembre 54, menée par un groupe, le FLN, que pratiquement personne ne connaissait. Tous les dirigeants du FLN étaient issus, en fait, du PPA-MTLD, tels étaient les sigles du parti de Messali Hadj, le père du nationalisme algérien, qui était incontestablement un parti de masse. Qu'il fût ou non un parti révolutionnaire est une autre question. Il était incontestablement un parti de masse. D'ailleurs, les révolutionnaires du 1er novembre 1954, qui étaient déjà en désaccord avec la direction du parti messaliste, ont sciemment mené cette première attaque du 1er novembre pour faire croire que, ce que d'ailleurs les autorités françaises ont immédiatement cru, que l'initiative en venait de la direction du FTLD et obtenir ainsi une répression contre la direction du parti de Messali et avoir la voie libre au niveau politique. Ce qui s'est produit, et Messali, dans la foulée de cette répression et des arrestations qui ont été opérées par les Français après le 1er novembre, Messali a fondé le MNA. D'où est sortie cette dualité et cette opposition entre le FLN d'un côté et le MNA de l'autre. Bon. Alors en effet, le FLN a gagné la lutte contre le MNA.
Mais à quel prix ?
Comment ? Mais à quel prix ? Il l'a gagné, disons, notons quelques dates. En 1956, les oulémas et les oulémas et le parti communiste algérien rejoignent le FLN. En mai 1957, près de 400 habitants d'un village qui s'appelait Melouza sont assassinés par le FLN. Les membres du village étaient accusés d'avoir des appartenances messalistes. À l'automne 57, à Paris, tous les cadres de l'organisation messaliste, l'USTA, sont assassinés par le FLN. Et là-dessus, à l'été, avait commencé l'affaire Bellounis. Il faut peut-être dire quelques mots de l'affaire Bellounis, parce que voilà quelque chose, je pense, qu'il faut corriger par rapport au livre d'Edoui. Bellounis était un des chefs militaires messalistes. Et Bellounis a été accusé au cours d'une campagne gigantesque et relayée singulièrement par le Parti communiste français, mais par plein de gens, et singulièrement par le FLN, qui était en train de gagner la bataille qu'on appellerait aujourd'hui la bataille des médias. Le FLN avait gagné la bataille, je ne sais pas moi, de la rédaction de France Observateur, etc. Mais, Bellounis a été accusé d'avoir passé un accord avec l'armée française.
Ah oui.
Ce qui était vrai et pas vrai. C'est-à-dire que Bellounis a en effet passé un accord avec l'armée française. Bellounis sauvait sa peau et la peau de ses hommes, enfin sauvé provisoirement d'ailleurs, comme on va le voir. Et Bellounis a fait des déclarations disant « si on reconnaît Messali comme le porte-parole de la révolution algérienne, je participerai à la pacification, etc. » Ce faisant d'ailleurs, Bellounis ne faisait que déclarer ce que Messali déclarait depuis le début. « Reconnaissez-moi comme le porte-parole de la révolution algérienne et je pacifierai, etc. etc. » je ne sais pas ce qui s'est effectivement passé entre Bellounis et l'armée française. Ce que je sais, ce qu'on sait, ce que les archives militaires montrent aujourd'hui, c'est que Bellounis a été tué, ainsi que 300 de ses hommes, par un régiment parachutiste, le 14 juillet, je crois, 58. Et c'est pas si simple, l'affaire Bellounis. Mais l'affaire Bellounis a été la perte politique de Messaliage, dont le mouvement politique a disparu corps et bien sous l'accusation de traîtrise. Aujourd'hui, des aéroports portent le nom de Messaliage en Algérie. Alors, l'opposition était énorme entre le MNA et le FLN. Et par-delà ces anecdotes ou ces mises au point historiques, qui ne sont que des anecdotes, même s'ils sont importantes et fondamentales, il y avait incontestablement une attitude politique et un problème politique. Si vous me donnez 30 secondes de plus, je peux faire une citation d'Edoui.
Alors, 30 secondes, et bien. Puis il faut qu'il puisse répondre.
Bien.
Et puis j'ai quelque
Alors,
chose à dire.
Le point sur lequel je manifeste en effet mon désaccord politique... Et le suivant. Le débat est ailleurs, écrit Edoui. Pour les révolutionnaires autoproclamés d'une puissance impériale, l'exercice du droit à l'indépendance d'un peuple colonisé est-il conditionné à leur jugement sur la qualité de la direction qu'il s'est donnée ? Ma réponse est oui.
Et votre réponse
et je
est
ne
non.
suis pas, je ne suis pas, je suis peut-être un révolutionnaire autoproclamé, je l'étais peut-être, mais le qualificatif d'une puissance impériale me révulse. Je ne suis pas français étant révolutionnaire, je suis révolutionnaire, point.
Oui, alors pourquoi, Edoui Planel, votre réponse est-elle non ? Notamment à la lumière de ce qui s'est passé. Si vous voulez, c'est un voyage aller-retour entre maintenant et autrefois. Nous savons ce qu'a donné cet État FLN. Et nous savons peut-être que la dureté du FLN aurait pu être, sinon limitée, du moins critiquée par ceux qui le soutenaient, qui se sont interdits de le faire.
Mais non seulement il fallait critiquer, je n'ai aucun problème avec ça, et par ailleurs... je le sais, je savais très bien que, par exemple, des gens comme Edgar Morin, des gens du groupe surréaliste, André Breton et d'autres, ont connu Pierre Lambert, jeune Pierre Lambert, dans des pétitions, des groupes qui défendaient la nécessité d'un pluralisme en défendant le MNA face au FLN et à la façon dont le FLN réglait à la mitraillette, à la bombe, au couteau des divergences politiques. Je veux dire, personne n'était aveugle et le fait de le savoir, de le dire, de l'écrire, bon, ne me pose pas un problème. Le débat n'est pas là. D'abord, moi, ce que j'ai voulu dire, et c'est important pour comprendre de quoi on parle, parce qu'autrement, là, on a l'impression de deux talmudistes là, qui racontent une histoire compliquée sur le trotskisme, etc., un pile-poule un peu...
Bon, non, mais moi, le Talmud,
c'est très important.
Ça dit des choses très concrètes.
Je suis d'accord, mais je dis pour ceux qui ne rentreraient pas dans notre lecture, je dis, moi, j'ai voulu poser que, disons qu'il y a eu, comment dire, des paroles trotskistes, mais il y avait une musique d'ensemble. Moi, je ne suis pas devenu trotskiste par découverte de brutal, tout d'un coup, soudain, des livres de Trotsky. L'engagement à des phases, à des moments, l'engagement dans un parti. Le livre, c'est aussi pour dire que l'engagement, d'abord à mes yeux, j'y insiste, ne se ramène pas au fait d'être ou non militant. Si j'ai voulu faire un livre en essayant de sortir d'un passé antiquaire et en présentant ce va-et-vient entre le passé et le présent, ou d'un passé décoratif. Ah là là, regardez, ils sont puissants, ces anciens 68ers, c'est pas mon problème. J'ai voulu montrer un passé plein d'à présent. J'ai voulu être dans cette actualité-là. Et si j'ai voulu dire ça, c'est vous dire, il y a des moments pour faire comprendre une histoire que le silence de Jospin rendait inintelligible. Et ce moment, c'est évidemment celui d'une France impériale, d'une France coloniale, d'une guerre coloniale très dure, dans un contexte qui est un contexte de décolonisation, dans un contexte certainement de romantisme, mais qui est aussi celui qu'incarne la révolution cubaine, qu'incarne aussi ce qui se passe au Vietnam face à l'intervention française puis américaine. Donc c'est ce contexte-là qui nous a ébranlés profondément, collectivement, sur fond de génération du baby-boom, etc. Dans ce contexte, moi je suis un enfant de ça, mon histoire même personnelle, je le dis, mon histoire familiale est celle-là. Et donc dans ce contexte, c'est vrai que moi, quand je dis autoproclamé, je le maintiens, je dis que quand on est, je suis très proche, vous citez Francis Janson, il se trouve que je ne le connais pas, que je cite son livre « Notre guerre », mais bon, je voudrais faire référence à quelqu'un qui pour moi, pas un mentor, mais est une référence éthique, profonde, qui est François Maspero sur tout ça, hein, qui est au fond de dire que quand on... Que ça n'enlève rien à la liberté de critique et que je sais par exemple que le FLN ne s'est pas contenté de liquider des gens du MNA, ils ont liquidé Aban Ramdan, l'un de leurs principaux dirigeants, et c'est comme ça que les militaires ont pris le pouvoir. La guerre civile algérienne de ces 10 dernières années s'enracine aussi là-dedans, et la violence coloniale se retrouve dans son envers qui est cette violence interne. D'accord, néanmoins, ce que je veux dire, si l'Algérie pour moi avait le droit à être indépendante, c'était légitime, il n'y avait aucune raison que la France reste la puissance qui possède l'Algérie. Et dans ce contexte, aider les Algériens à être indépendants était une cause juste. Être lucide sur les divergences ou l'absence de démocratie qu'il pouvait y avoir en leur sein, ça ne pose aucun problème, était une action à avoir. Néanmoins, s'abstenir au nom du fait qu'il se serait donné une direction avec laquelle on n'est pas en accord, autant que je sache... La guerre du Vietnam a été menée contre les B-52, contre les Américains, par un parti stalinien. Nous, trotskistes, néanmoins, nous défendions le droit des Vietnamiens à ne pas être soumis aux B-52, à l'intervention américaine. Donc c'était ça la position de fond et qui maintient une petite divergence. Alors néanmoins, je voudrais juste dire, et je crois que là-dessus, je pense que Michel me donnera raison, ce que je voulais aussi montrer, c'est quand même la fascination pour le même au même chez Pierre Lambert dans cette organisation. La quête dans le MNA d'une sorte de parti bolchévique bis. Quand je parle d'occidentalo-centrisme, etc., c'est la méconnaissance du Sud, la méconnaissance d'un monde qui ne se ramène pas à la quête du prolétariat, à la quête qui est un autre, qui est d'autres causes. De ça et sortir de cette idée... qui ramène du même au même et qui pour moi est un point commun, parenthèse, entre le courant de l'OCI ou le courant de lutte ouvrière qui également, par rapport à l'internationalisme un peu tiers-mondiste qui incarnait l'autre courant, faisait une différence.
Alors là, je voudrais intervenir à mon tour pour vous répondre, Edoui Plenel, et aussi peut-être pour remettre en cause ou interpeller cette fraternité que vous reconnaissez ensemble et qui tient aussi à une sorte d'amour pour ce passé révolutionnaire. Vous dites, Edoui Plenel, dans votre livre, « Pas de remords », une attitude qui contraste avec l'exigence de pénitence et de repentance que vous avez vis-à-vis de la France en général. C'est-à-dire la France a des placards... Notamment le placard algérien, mais il y en a d'autres. Journalistes, vous ouvrez les placards de la France, mais...
Est-ce que je peux vous interrompre?
Les révolutionnaires n'ont pas de placard et les trotskistes n'ont pas de placard. Les placards du trotskisme. J'aurais parlé, mais de ce que vous dites sur le jeu.
Excusez-moi, Alain Finkielkraut, sincèrement, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, non. Au contraire, je crois, et d'ailleurs c'est pour ça que l'organisation de Pierre Lambert me fait un procès, je crois que c'est le premier livre qui essaye, il faut que les historiens s'y mettent, parce que moi je ne fais qu'ébaucher des pistes, à justement aborder, je le dis d'ailleurs, j'emploie la formule du placard, ce qui est l'histoire un peu dérangeante du trotskisme, c'est le fait que certains courants du trotskisme, dans une sorte de désespérance, ont pu faire de l'entrisme dans certains partis de l'occupation. Donc je n'ai pas, simplement, y compris pour la France, je ne dis pas à la France de se repentir. Moi, je ne suis pas dans le remords. Je dis, et j'essaye de le mettre en acte, excusez-moi, moi, y compris me concernant, ou concernant cette histoire collective, et y compris c'est la divergence avec Lionel Jospin, c'est de dire, ce passé, eh ben, il faut vivre avec, il faut le regarder, il faut le discuter. Donc essayez, là, je vous interromps parce que je ne suis pas l'idée.
Non, mais je ne suis pas... Vous dites, vous avez cette phrase, les sages le savent, pour Spinoza, oui, après la haine, l'autre ennemi fondamental du genre humain, n'est d'autre que le remords.
Oui, mais vous dites que c'est comme si la France, je l'appelais à faire du remords. Non, je dis qu'elle regarde. La France a torturé, et quand les chefs d'état-major, excusez-moi, Maurice Schmitt, chef d'état-major du temps de la guerre du Golfe, a dit il y a quelques mois devant un tribunal était normal de torturer. Monsieur Ossarès avait eu raison de torturer. Moi, je ne peux pas vivre avec ça dans ce pays.
D'accord.
Y compris aujourd'hui.
Alors, vous combattez ça, et c'est la raison pour laquelle, je vous donnerai tout de suite la parole, Michel Bruy, vous rendez hommage à Francis Janson, dont je voudrais rappeler, en effet, qu'il a été très sartrien, même hyper sartrien, et que sur Camus, auquel vous consacrez quelques belles pages, il a écrit un article au moment de l'homme révolté, extrêmement violent, parce que dans l'homme révolté, Camus, qui aimait la nature, dans Nos, refusait, et c'est tout l'enjeu théorique très profond de ce livre, la soumission totale de la nature à l'histoire. Il y a l'histoire et il y a autre chose. Ce que, nous aurons le temps de le voir, ne disait pas Trotsky. Pour Trotsky, il y avait l'histoire et c'est tout. Mais si tout est historique, tout est possible. Voilà ce que voyait Camus, voilà ce que ne voulait pas voir Janson. Et Janson a porté les valises, c'est-à-dire il est allé jusqu'au bout d'un soutien inconditionnel à cette lutte du peuple algérien, au moment où d'autres avaient une lucidité à laquelle nous devrions être capables, peut-être pas par remords, mais au moins par humilité, de rendre hommage. Il y avait évidemment Camus, peut-être qui est allé trop loin dans le silence, mais aussi, et c'est très intéressant, Merleau-Ponty. Et vous verrez que ça a à voir avec la mémoire. Qu'écrivait Merleau-Ponty, justement, à la fin de sa vie ? Il ne suffit pas de savoir ce qu'on pense de la torture pour savoir ce qu'on pense de l'Algérie. La politique n'est pas le contraire de la morale, elle ne se réduit jamais à la morale. Et il dit ceci, le prolétariat, sur cette question du même au même, on se rend compte que l'idée d'un pouvoir prolétarien est devenue problématique. Beaucoup d'hommes qui ne croient plus que l'URSS en soit un de pouvoir prolétarien, justement parce qu'ils ne le croient plus, reportent sur les pays colonisés l'idéologie révolutionnaire, précisément parce qu'ils ne peuvent plus être communistes, ils n'envisagent pas de compromis en politique coloniale. Eh bien, on a vu aussi le résultat de ce refus de compromis et de cette projection. Et quant à la mémoire, je voudrais citer ici, dans le débat, un article de Paul Thibault, militant anticolonialiste de la première heure, qui a rencontré Pierre Villanaquet à cette occasion, que vous citez, sur le 17 octobre 1961, dont Le Monde, entre autres, nous parle beaucoup. Que s'est-il passé ce jour où la police, en effet, a tué un nombre considérable d'Algériens ? Thibault dit « elle se vengeait le 17 octobre ». Elle se vengeait de quoi ? D'attentats indiscriminés contre la police. 22 policiers seront tués de janvier à octobre 61. Et... il ne justifie aucunement cette attitude, il dit simplement, elle révélait aussi les difficultés qu'avait le FLN de sortir de la logique de l'affrontement et même de la sacralisation de l'affrontement. Et il ajoute qu'aujourd'hui, la mémoire ne tient pas compte de ce qui s'est passé, un moment tragique d'une guerre qui finissait mal. Et cet épisode est devenu une illustration de l'éternel fascisme contre lequel la gauche éternellement s'affirme. Et je termine en disant, il faut réfléchir aux échecs d'hier, mais certainement pas sur un mode pénitentiel, unilatéral et déshistoricisé. Donc vous voyez que le rapport à ce passé englobe le rapport que nous devons avoir à notre mémoire, c'est-à-dire à notre présent, et peut-être que ça demande de nous un peu moins de complaisance vis-à-vis de ce que nous fûmes. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de dire. Mais je donne la parole à Michel Brouet et ensuite à Edoui Plenel.
Oui, je vois pas très bien en quoi je suis concerné par le développement que vous venez de faire.
On peut laisser à la fine Kelkraut faire l'émission tout seul.
Écoutez, première fois que je prends la parole dans ce débat. Vous parlez très longuement l'un et l'autre. Donc je fais pas l'émission tout
mais
seul.
Mais non, c'est pas je, ça. C'est qu'Alain Finkielkraut, Alain Finkielkraut, dans ce livre Secret de jeunesse, Francis Janson, c'est 15 pages à propos de l'engagement. C'est 15 lignes, pardon, à propos pas 15 pages. C'est 15 lignes à propos de l'engagement de mon père en Algérie. À propos de l'engagement de mon père en Algérie. Nous sommes ici pour débattre, si je ne me trompe, du trotskisme, ce que c'est que d'avoir été trotskiste. Moi, je veux bien, un jour ou un autre, redébattre avec vous de ce qui est notre divergence radicale, et elle est radicale et profonde. Je pense qu'il y a des moments, je le dis tout simplement, pour reprendre une formule, une vieille formule de Rosa Luxembourg, où l'ennemi peut être dans son propre pays. Ces moments-là, ça peut être le moment de l'occupation, ça peut être le moment où son pays opprime d'autres peuples, son pays est colonial. De ce point de vue, je reste fidèle à cette histoire-là. Cette histoire-là, pour moi, est fondatrice, personnellement, humainement. C'est une histoire, et ce n'est pas de la nostalgie comme ça. Il y a de la lucidité aussi sur le terrorisme, sur la façon dont ces choses-là ont pu être menées, sur des idéalisations, sur des romantismes. Je n'ai aucun problème. Je dis que nous sommes ici pour parler d'une histoire commune, d'une histoire diverse, d'une histoire qui a un présent. Autant que je sache, c'est une particularité de la France d'avoir aujourd'hui 3 candidats et bientôt 3 organisations, sinon 4, je m'en mêle, candidats à la présidentielle qui se réclament du trotskisme, en tout cas 3 organisations. Bien. Donc c'est une présence, c'est une actualité
alors,
de tout
d'accord,
ça.
D'accord, alors parlons-en et parlons s'il vous plaît, Michel Brouet, de Trotsky, parce que pour moi tout cela avait un lien, mais je serai plus précis pour que ma question vous concerne. J'ai ici un livre de Léon Trotsky qui s'appelle « Leur morale et la nôtre », qui est préfacé par Pierre Franck, un livre écrit dans les années 30. Leur morale et la nôtre, c'est la morale des révolutionnaires, leur morale pseudo-universaliste des bourgeois, où il est dit ceci, les normes concrètes du catéchisme bourgeois sont camouflées à l'aide d'abstractions morales placées elles-mêmes sous l'égide de la religion, ces normes abstraites doivent être, dit Trotsky, en quelque sorte rejetées, nous devons faire ressortir cette duperie, et quand on l'interroge, quand il s'interroge plutôt, sur la question de la prise d'otages et de la nécessité ou non de fusiller des otages, il dit ceci, la guerre civile est l'expression suprême de la lutte des classes, tâcher de la subordonner à des normes abstraites signifie désarmer les travailleurs face à un ennemi armé jusqu'aux dents. Le moraliste petit bourgeois est le frère cadet du pacifiste bourgeois qui veut humaniser la guerre en interdisant l'utilisation de gaz toxiques, etc. Politiquement, de tels programmes ne servent qu'à détourner les masses à penser à la révolution comme au seul moyen de mettre fin à la guerre. Trotsky avait tort, mais du moins, le trotskisme a fait de la guerre civile comme
vraiment,
le modèle de la lutte politique. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui
par la fraternité qui unit les anciens trotskistes. Non, je crois qu'on dit n'importe quoi. Excusez-moi,
oui. Écoutez, Trotsky.
Certes, mais moi aussi, je cite Trotsky, il est là, vous voyez, la morale et la nôtre. D'abord, leur morale et la nôtre n'a pas été écrit dans les années 30. Leur morale et la nôtre a été écrit au début 1938. Il a été écrit au début 1938 en réponse à une polémique qui se développait alors et qui était essentiellement le thème trotskisme égale stalinisme. En d'autres termes, bourreau égale victime. En d'autres termes, justifier, je ne sais pas moi, lire les évangiles à la lumière de l'Inquisition ou de Gaulle à celle de Didier Schuller. Le trotskisme est l'antithèse du stalinisme, et aujourd'hui, ce qui se disait et se développait, c'était toute la thèse impliquant que le stalinisme et ses déviations monstrueuses étaient la conséquence inéluctable des conceptions et des méthodes employées par Trotsky pendant la guerre civile. Trotsky a donc répondu sur le terrain de la guerre civile. Il disait que les guerres civiles ne se mènent pas en gants blancs sur un parquet ciré, ce qui voulait dire très précisément que la guerre civile était une horreur, et il faut maintenant reparler 2 minutes de la guerre civile en Union soviétique, dans la Russie des années 20. La guerre civile des années 20 était 50 ans après la Commune de Paris. 50 ans, c'est pas loin. 50 ans, c'est pour nous la libération. La Commune de Paris a été, tout le monde le sait, mais on le dit peu, la victime d'une répression terrifiante. La semaine sanglante où les fédérés étaient menés au mur par groupe de 20 et assassinés à la mitrailleuse a été glorifié par l'ensemble, presque l'ensemble de l'intelligentsia française. J'ai noté, moi, des choses extraordinaires qui pourraient s'opposer de manière obscène à ce que, aux citations que vous donnez. Et le livre de Trotsky est une réponse sur ce terrain-là. Le livre de Trotsky, c'est « Croyez-vous donc que l'on puisse mener une guerre civile en gamblant sur un parquet ciré ?» Alors, il y a des expressions...
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, ça, on s'est tous raconté ça à un moment donné. Je suis passé par là aussi. La question que je me pose, c'est... Enfin, je suis passé par là et effectivement, j'ai pris distance vis-à-vis de ce discours. Et il semblerait que ni l'un ni l'autre,
non,
vous ne souhaitiez vraiment.
Mais c'est pas le problème. Mais attendez, c'est pas le problème de prendre distance. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais sortir ma mitraillette et exécuter des gens. Je suis en train de vous dire que je réclame qu'on respecte la vérité historique sur cette affaire-là, sur l'affaire de leur morale et la nôtre. Le Monde, excusez-moi, et Louis a publié un article qui m'a révulsé. Un article de Monique Cantos-Pervert. Qui, non mais d'accord, tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans le Monde.
Je suis plutôt responsable que le pluralisme bien existe entendu dans les colonnes du Monde.
Ce qui m'a révulsé, ce n'est pas qu'il soit publié, c'est le contenu. Le livre explique grosso modo, commence par Trotsky, cet abominable commissaire politique du gouvernement bolchevique, et grosso modo lit ce qu'écrit Trotsky sur le terrorisme à Ben Laden et au 11 septembre. C'est une aberration totale. Jamais une seule fois l'action de Trotsky n'a justifié. Bien entendu, jamais le terrorisme de masse. Il passait son temps à dire que tout ce qui pouvait désunir les masses, tout ce qui pouvait les opposer à une action commune, était à bannir. Il a eu des expressions extrêmement claires, y compris sur le célèbre problème, qui relève parfois de l'enculage de mouche d'ailleurs, la fin justifie les moyens. Il y a sur le problème de la fin justifie les moyens des développements de Trotsky, y compris dans leur morale et la nôtre, qu'on se garde bien de... Par exemple, si vous permettez, puisque vous avez lu une longue citation de Trotsky, allons-y. Le problème de la fin et les moyens, tout dépend du caractère du but. Si le but est l'affranchissement de l'humanité, alors le mensonge, la fourberie et la trahison ne peuvent nullement être des moyens appropriés. Il découle, ne sont admissibles, écrit-il encore, et obligatoires que les moyens qui accroissent la cohésion du prolétariat. En effet, c'est la ligne, la conception de Trotsky, la cohésion du prolétariat. Et il continue, il découle de là précisément que tous les moyens ne sont pas permis. Quand nous disons que la fin justifie les moyens, il résulte pour nous que la grande fin révolutionnaire repousse d'entre ces moyens les procédés et méthodes indignes qui dressent une partie de la classe ouvrière contre les autres, qui tentent de faire le bonheur des masses en leur propre concours, qui diminuent la confiance des masses en y substituant l'adoration des chefs, etc. etc. Où voyez-vous là... Alors ça, c'est le thème central de l'armoire.
D'accord.
Alors, où voyez-vous là la justification de la folie de Ben Laden?
Edoui Plenel, et je voudrais poser une question, mais allez-y.
Deux choses. Trotsky et trotskisme. Il y a un personnage historique, dans des moments historiques, qui s'appelle Léon Trotsky. Pour reprendre le Trotsky de la guerre civile, le Trotsky de la guerre civile n'est pas contemporain du trotskisme. Trotsky a plusieurs moments dans son histoire. Le Trotsky d'avant 17 est le seul qui combat les dérives potentielles du bolchevisme, qui voit comment une certaine conception du parti peut nuire au pluralisme. C'est finalement, avec Rosa Luxembourg, on pourrait le dire, le seul qui voit une certaine forme de critique du léninisme. Le Trotsky de 17 à 1922, le commissaire, l'homme de l'armée rouge, l'homme qui va faire ce saut de l'ange. Michel a entièrement raison de rappeler la résonance avec la Commune de Paris, cette idée. Mais au fond, on a été des anges, on s'est fait fusiller. Comment on va tenir? C'est le rapport à la violence, le saut de l'ange dans quelque chose qui est le vide. Il est évident que dans la façon dont est menée la guerre civile, dans les positions que va défendre après Trotsky, par exemple sur la militarisation des syndicats, eh bien évidemment, il y a des moments, des pas qui sont faits là, qui sont des pas dont on voit évidemment des choses qui se mettent en place, des glissements, des évolutions, des ruptures par rapport à une diversité, par rapport à un pluralisme, par rapport à une certaine éthique des fins et des moyens, qui vont avoir des conséquences qui seront le stalinisme. Ensuite, et c'est ça quand même qu'il faut bien dire à Alain Finkielkraut, l'homme qui est un leader, qui est l'homme le plus populaire avec Lénine, au bout de ses 5 ans de vie, 5 ans, 1917-1922, eh bien il va se dresser, y compris contre lui-même. Le trotskisme n'a comme acte fondateur que le fait d'être celui, alors qu'il a toutes les raisons d'y rester, d'être un dirigeant, de passer peut-être en procès après pour, au nom, comme Boukharine et les autres, se coucher et accepter d'être fusillé, eh bien, il va se dresser contre ça, dans des moments de silence, de tâtonnement, de réflexion, et qui vont donner la négation, y compris de ce qu'on peut reprocher ou critiquer à certains textes de Trotsky. Éloge de la démocratie dans le débat politique, du pluralisme, contre Staline, il fait appel à John Dewey, le philosophe, un libéral politique au sens de ce qu'il y a de libertaire dans cette philosophie-là. Eh bien, il va construire ça. C'est le manifeste avec Breton aussi sur la licence, toute liberté. Alors, donc, qu'est-ce que d'accord. Je veux vous dire ? Je veux vous dire, y compris, c'est le débat avec Victor Serge. Victor Serge qui incarne dans cette histoire-là une certaine tradition libertaire. Donc, quand même, il est trop facile de dire... Je vais prendre cet arrêt sur image, et cet arrêt sur image suffit à faire on clôt, alors que nous, de quoi nous rendons compte ? De passeurs qui ont sauvé l'espérance critique quand il était minuit dans le siècle.
D'accord. Alors, je n'ai qu'une dernière question à poser, elle sera aussi brève que possible, parce que l'émission avance. Il ne s'agit pas pour moi d'accabler Trotsky, de le mettre sur le même plan que les staliniens, les criminels. Pas du tout. C'est simplement la question de notre rapport à l'expérience du XXe siècle, à l'expérience totalitaire, par-delà les souvenirs émus que nous pouvons avoir de nos
les
engagements.
Les trotskistes l'ont les premiers combattus, en d'accord, l'occurrence.
D'accord.
Mais tous les régimes en place soutenaient.
Alors, un mot. Alors, deux exemples sur les fins. Certes, la fin ne justifie pas les moyens, mais que disons-nous aujourd'hui de la fin du trotskisme ? Les ultima verba rappelés par un article de Boris Souvarine. Je citais Merleau-Ponty sur la guerre d'Algérie, je ne citais pas des partisans de l'Algérie française. Là, je cite Souvarine, qu'on m'en fasse crédit. Trotsky dit ceci, « La vie est belle, puisse les générations futures la purifier de tout le mal, de l'oppression, de la violence et en jouir dans la plénitude. » Eh bien, Souvarine commente en disant que cette spéculation sur le bonheur des générations futures impliquant nécessairement le sacrifice injustifié des générations présentes, elle n'est pas propre à Trotsky, elle est commune à tous les doctrinaires, toutes les écoles révolutionnaires, et Staline l'a mise en pratique de manière inoubliable, et il rappelle lui cette phrase de Pasternak, l'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Cette fin est-elle intéressante ? Voici aussi une fin totalement prométhéenne dans littérature révolution, l'homme socialiste maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine, il désignera les lieux où les montagnes doivent être abattues, changera le cours des rivières et emprisonnera les océans. Les idéalistes nigauds peuvent dire que tout cela finira par manquer d'agrément. C'est pourquoi ce sont des nigauds. Je suis nigaud face à cela. Et je pense que ce qui est très nigaud, c'est plutôt cette fin.
Attendez,
dernière chose, Michel Brouet, que je voudrais vous demander. Le pluralisme de Trotsky. J'ai beaucoup moins parlé que vous, on comptera après. La difficulté de tous les révolutionnaires à être pluralistes procède de l'idée que l'histoire se ramène à la lutte entre deux forces. D'où la difficulté aujourd'hui de la gauche qui se réclame de Trotsky de prendre les situations une par une. Et ça, c'est aussi un héritage du trotskisme, entre autres manifestations de l'idéologie révolutionnaire. Est-ce qu'on ne peut pas le penser aussi ? Je dis plus rien. Michel Brouet.
Oui. Le thème, c'est avoir été trotskiste. Alors, on aurait pu me demander pourquoi j'ai été trotskiste, ce qui m'a fait de moi un trotskiste, et pourquoi je considère que je ne le suis plus. Peut-être que, en disant pourquoi j'ai été trotskiste, et aussi éventuellement pourquoi je ne le suis plus, je vais pouvoir essayer de répondre à certains aspects de l'approche que vous nous avez donnée maintenant, Alain Finkielkraut. Je pense que, en ce qui me concerne, un acte fondateur de mon engagement trotskiste, ça va paraître idiot, mais c'est comme ça, c'est le pacifisme qui a fondé la révolution d'octobre. C'est la lutte contre la Grande Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, qui a fondé la révolution d'octobre. Je pense qu'il faudrait aussi, dans une réflexion sur les trotskistes de notre génération, mentionner l'importance et le souvenir transmis par la révolution, son vocabulaire politique, les conseils ouvriers, l'assaut du ciel, ses figures emblématiques, etc. Tout ça sortait de la lutte contre la première grande boucherie, la guerre qui a fait sombrer le XXe siècle dans l'horreur. Quand j'avais 15 ans, j'ai lu les Thibault. Et quand j'ai lu les Thibault, j'ai voulu être Jacques Thibault. Et pour moi, être trotskiste, c'était être Jacques Thibault. Et quand j'ai repris d'autres jours, j'ai repris des documents sur la conférence de Zimmerwald,
qui a été la conférence fondatrice, on pourrait dire, ou presque pré-fondatrice de la Troisième Internationale. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, la filiation du stalinisme et du trotskisme, les méthodes qui expliquent la dégénérescence totalitaire, etc., il est quand même intéressant de noter ce qui est advenu des participants à cette conférence de Zimmerwald. Allons-y. Les Russes, il y avait Lénine, et puis il y avait Trotsky, Kameniev et Boukharine. Trotsky, Kameniev et Boukharine ont tous été zigouillés sur l'ordre de Staline. Il y avait un Bulgare qui s'appelait Christian Kakovsky. Il est mort, tué par Staline. Il y avait un Suisse qui s'appelait Félix Platen. Il est mort au Goulag, en 1942. Il y avait des Allemands aussi. Il y avait Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ils ont été massacrés par les corps francs allemands en 1919. Il y avait aussi un Polonais, je ne sais plus ce qu'il était, Karl Radek. Il est mort dans une prison stalinienne. Il y avait aussi le compagnon de Rosa Luxembourg qui a été assassiné par les corps francs. Je pourrais continuer. Et si je continuais, nous constaterions, et c'est pour ça que je m'énervais tout à l'heure en disant que je voudrais qu'on respecte les faits et non pas le baratin superficiel. Les faits sont que ces gens-là qui se sont levés contre la guerre et contre la barbarie, ces gens-là qui ont fait la révolution d'octobre qui nous mobilisait, ces gens-là ont disparu dans les geôles staliniennes. Les premiers à avoir été assassinés sont ces gens-là. On montre de temps en temps et puis on oublie les photos du présidium du comité central où tous, sauf Lénine, ont été assassinés. La composition du Parti communiste d'Union soviétique où les 90% des membres des congrès ont disparu, ont été assassinés. Alors, soyons un tout petit peu matérialiste et concret. Cela veut dire que le stalinisme, dans son expression, dans ce qu'il exprimait, dans ce qu'il a fait, était la négation. Alors, ça, c'était ce qui me fondait. Ce qui me fondait, c'était les faits que je voyais niés partout, comme ils sont niés dans l'article de Madame Cantos-Perber, comme ils ont été liés tout au long de la vie de Trotsky. La haine qu'on a portée à cet homme-là est une des caractéristiques de sa vie. On l'a caricaturé, vous l'avez sans doute vu, en juif sanglant, bourré au bourreau, au nez, et au cerf crochu, en oiseau de proie, en tueur. Mais... on a manifesté contre lui.
Oh, les nazis. Reconnaissez que c'était pas mon propos. Je vous ai cité en guise de baratin des textes de différentes époques de Trotsky.
Oui, mais il faut les remettre dans leur contexte. Il faut savoir contre qui il s'adressait. Le baratin, par exemple, le texte de Trotsky que vous citiez sur la morale et la nôtre est s'insérait par exemple dans une polémique avec Victor Serge, lequel Victor Serge lui restait personnellement lié et attaché longtemps après, et bien entendu encore jusqu'à sa mort après cette polémique.
Alors, un dernier mot, Jacques Lenel, mais vraiment l'émission se termine, donc soyez bref si possible, très bref.
Alain Finkielkraut, j'ai l'impression que nous sommes vraiment des oiseaux très exotiques pour vous. Je m'explique. Non, mais dans notre façon de, y compris de répondre ce que vient de dire Michel, notre engagement n'a jamais été dans l'ordre de la croyance, dans l'ordre du soleil rouge, dans l'ordre... L'héritage qui nous a fait... parce que c'est un passage d'histoire, c'est un passage d'histoire critique, de minoritaire. Alors ce n'était pas l'idée, et c'est pour ça que moi j'ai aucune gêne à dire que, comme par rapport à l'engagement, je suis de ceux qui sont convaincus que l'histoire n'est pas écrite, qu'elle ne fait rien, que nous ne sommes pas dans ce progrès linéaire, qu'il faut revenir à des engagements où le hasard a sa place, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas ce grand millénarisme où tout va tomber, etc. Donc, ce n'est pas ce rapport-là à la culture révolutionnaire. Ce rapport était beaucoup plus... le rapport de penser contre, de penser y compris contre soi-même, contre les siens, contre